les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli. Bonjour à tous. Comme chaque mois, je vous propose une réflexion philosophique à partir d'un problème contemporain analysé à la lumière des philosophes. Et ce mois-ci, je ne peux pas échapper à ce qui est devenu en partie notre obsession, les volte-face de Donald Trump et son rapport plus qu'approximatif avec la vérité et la réalité. Mais je ne vais pas m'apesantir sur les raisons pour lesquelles le président des États-Unis ment. Ce serait émettre de pures hypothèses. Est-il fou, pas sérieux, génialement stratégique, intuitif, théoricien d'une vérité alternative ou mégalomane déboussolé? Je ne sais pas et personne ne peut le savoir. Peut-être même pas lui. Les responsables politiques ont toujours menti et Machiavel, dès le début du XVIe siècle, dans son ouvrage le plus célèbre Le Prince, montre très bien que le rapport au mensonge en politique doit être utilitaire. Il s'agit d'être efficace, de mentir avec talent. Et à cet égard, on ne peut pas nier que Trump n'ait pas été efficace. Il a été élu deux fois, mais de manière inédite après une défaite en 2020 et une condamnation pour avoir voulu faire taire une prostituée. Lui qui fut en large partie réélu par des fondamentalistes chrétiens, c'est indéniablement ce qu'on appelle un animal politique moderne et bulldozer dans le paysage politique mondial.
Well, we have some of the dumbest leaders in the world. We have losers. We have losers.
They're losers. They're just losers.
We have very stupid people.
We have stupid leadership. How stupid are our leaders? How stupid are these politicians to allow this to happen? How stupid are they?
Nous pourrions reprendre toute la théorie de Machiavel qui décompose et justifie les mécanismes du mensonge. Mais cela pourrait donner l'impression d'un soutien à la politique trumpienne, ce qui n'est pas du tout mon désir.
Si je me souviens bien, le prince est un petit guide pour devenir un parfait sociopathe, c'est ça?
Eh bien, non, je ne crois pas. Je dirais qu'il montre comment parvenir à ses fins avec efficacité. Votre place sera toujours convoitée. Je crois que le prince explique que quel que soit leur pouvoir ou la fortune qu'ils peuvent posséder, les gens voudront toujours votre place, quoi qu'il en soit. Alors il vaut mieux affronter la concurrence tout de suite au lieu d'attendre qu'elle attaque le château.
Il faut que l'histoire prenne le temps de juger le bilan de son action, et donc rendez-vous est pris dans une petite dizaine d'années pour juger les conséquences de son deuxième mandat. Non, je préfère aborder la question sous un angle totalement différent, celui de la crédulité. Pourquoi les gens le croient-ils? Sont-ils imbéciles au point d'être persuadés que des migrants mangent des chats à Springfield? Ou que Trump avait réellement un plan pour arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures? Qu'il supprimerait l'inflation par sa seule présence à la Maison-Blanche? C'est si absurde que la question me taraude. Comment des individus dotés d'un cerveau avec deux hémisphères, résultat d'une sélection naturelle et de conditions culturelles uniques dans le monde vivant, peuvent apporter du crédit à un homme qui raconte n'importe quoi, ne sachant peut-être même pas ce que lui-même va débiter comme ineptie à la seconde suivante? Comment l'expliquer? Un petit élément de réponse peut venir d'une autre philosophe, beaucoup plus proche de nous que Machiavel, Hannah Arendt. Cette célèbre intellectuelle, dont je vous ai déjà parlé lors de la chronique sur les apatrides, elle dut immigrer aux USA pour fuir l'Allemagne nazie et, dès 1951, elle écrivit les origines du totalitarisme, faisant la première le rapprochement entre le pouvoir de Hitler et celui de Staline et leur mépris commun de la vérité. Elle montra notamment les mécanismes qui expliquent comment, dans un régime totalitaire, le chef incontesté peut dire « n'importe quoi » et être pourtant soutenu par les masses et les élites de son pays.
Qui sont ces enfants soldats, prêts à se sacrifier pour Hitler? Comment le régime s'est-il assuré leur loyauté sans faille? Certains de ces enfants sont encore vivants aujourd'hui. Ils sont les derniers à pouvoir raconter ce que signifie grandir sous le nazisme. Comment ces jeunes ont-ils été happés par les ténèbres nazies? Ils ont été à la fois l'avenir du régime, sa vitrine et sa chair à canon.
C'est étrange de voir le parallèle que nous pouvons faire avec la dernière élection américaine. Un vote populaire qui ramena Trump à la Maison-Blanche et grand patron de la tech qui vint lui prêter allégeance le jour de son investiture. Mais pourquoi tant de servitude et de fascination pour le bonhomme ?
D'ailleurs, 80% des Allemands, 38 millions d'hommes, ont voté pour lui. Parce que 38 millions de mecs font la même connerie, c'est pas une connerie.
Revenons à l'analyse d'Arendt pour continuer notre parallèle. Elle expliqua que c'est l'effondrement moral à la suite de la Grande Guerre qui permit la réussite des nazis et des staliniens. Cela a été suscité par la disparition de l'État-nation et du système de classe du siècle précédent, et pas uniquement par la grande crise de 1929. La Première Guerre mondiale rendit des peuples écœurés par ce à quoi avait amené l'esprit nationaliste, un massacre sans précédent. Mais paradoxalement, les survivants des tranchées ne devinrent pas pacifistes, car ils gardèrent le souvenir d'un moment fondateur, celui d'une nouvelle génération. Ils rejetaient, par contre, l'ancien monde, celui de leur père. Arendt l'écrit. La guerre devint le symbole de la mort, la grande égalisatrice, et par conséquent le véritable géniteur d'un nouvel ordre mondial. Abandonner les privilèges et les faux-semblants des élites d'avant-guerre, assoiffées de respectabilité, mais pas plus morales que les pauvres soldats issus des rangs des paysans morts dans les tranchées. Hitler et Staline avaient le même sens du délire paranoïaque. Leur vision du monde se basait sur l'idée d'un complot délirant. En gros, les juifs pour Hitler, les capitalistes impérialistes dans un premier temps pour Staline, puis, dès les années 30, mais aussi après la Seconde Guerre mondiale, le péril juif. Lorsqu'on examine leurs justifications pour craindre un tel complot mondial, elles sont si ridicules qu'elles montrent à quel point ces hommes étaient coupés du réel. Et pourtant, ils entraînèrent avec eux une foule de fidèles. Pourquoi ? Puisque les classes sociales avaient disparu avec la guerre, tous égaux dans les tranchées, pouvait-on entendre, il ne restait que la masse. La masse, paradoxalement, isole les individus les uns des autres. Car on ne peut pas s'identifier à un groupe social précis en opposition aux autres. Il n'y a plus les paysans, les ouvriers, les bourgeois, mais juste les générations sacrifiées. Et lorsque cet isolement ne s'est pas fait naturellement, elle le fut par la force de la répression, comme en URSS. C'est donc une société de nihilistes qui sortit de la guerre. Le nihilisme, c'est lorsqu'on ne croit plus aux valeurs morales que l'on nous a enseignées. Les nihilistes pensaient que la guerre leur avait permis de sortir de la fausse sécurité, la fausse culture, la fausse vie qu'offrait à leurs yeux la société bourgeoise d'avant-guerre. On les avait trompés et tout s'était écroulé. Pourquoi dès lors vouloir se rattacher à la vérité si l'histoire est truquée. Le mensonge est comme la vérité. Mais la qualité de celui des nazis et des staliniens, c'est qu'il était simple et neuf. Il n'était pas issu des sociétés du siècle précédent.
Alors, ce comité de neuf langues,
il fait des heures supplémentaires. Le plus gros déchet, ce sont les adjectifs. Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Quelle belle chose que la destruction des mots. Pas vu la 10e édition du dictionnaire Smith ? Épaisse comme ça. La 11e sera encore moins épaisse.
Lisons encore quelques lignes des origines du totalitarisme de Hannah Arendt. Des mensonges énormes, des contre-vérités monstrueuses peuvent en fin de compte être posées comme des faits incontestables. L'homme peut être libre de changer le passé. À volonté. Et la différence entre la vérité et le mensonge peut cesser d'être objective et devenir une simple affaire de puissance et d'astuce, de pression et de répétition infinie. La fascination naissait non pas de l'habileté de Staline et de Hitler dans l'art du mensonge, mais du fait qu'ils étaient capables d'organiser les masses en une unité collective qui soutenait leurs mensonges avec une impressionnante magnificence. Le parallèle avec aujourd'hui est troublant. La société américaine est à bout de souffle. Le rêve américain, pour beaucoup, n'est qu'une illusion. Il est fini le temps où la richesse pouvait être espérée par tous, au prix des inégalités certes, mais dans un esprit optimiste et conquérant. Aujourd'hui, le peuple états-unien a la gueule de bois, car la drogue ravage des générations entières, notamment cette antidouleur appelée fentanyl. La pauvreté s'installe dans tous les États, accompagnée par une ferveur religieuse inconnue en Europe et un mode de vie nostalgique du Far West, lorsque tout était possible. La cassure avec les élites est telle que le peuple n'écoute plus, car il s'est senti trahi. Donc, pourquoi ne pas écouter celui qui semble si sûr de lui ? Pourquoi serait-il plus toxique que les autres ? Et nous nous retrouvons comme lorsque des masses entières de communistes adoraient Staline. Avant les révélations de ses crimes, on buvait ses paroles et même les plus grands intellectuels comme Aragon et Sartre étaient aveugles lorsqu'ils visitaient l'URSS. Pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui ? Pourquoi devrions-nous attendre de la part des élites américaines un sursaut, alors qu'ils retrouvent enfin un peu de popularité en adhérant au fameux MAGA, Make America Great Again ?
La force du fascisme et de tous les totalitarismes, c'est de voler nos mots, les mots de la révolte populaire. Beaucoup des nôtres sont tombés dans le piège. C'est ainsi que sont devenus boulangistes, des héros de la commune. C'est ainsi que sont devenus antisémites, des socialistes blanquistes. C'est ainsi qu'ont adhéré à l'Action française des ouvriéristes du cercle Proudhon. Tous, sans exception, finir dans la honte. Car quand on mélange le brun et le rouge, c'est toujours le brun qui l'emporte. Je n'en rajouterai pas.
Certes, le mur de la réalité devrait les frapper très vite. L'histoire s'accélère avec les nouveaux moyens de communication et les bourses commencent à s'écrouler 2 mois après l'entrée en fonction de Donald Trump. Des milliers de fonctionnaires ont été licenciés et les premières manifestations de colère s'organisent. Mais cela suffira-t-il ? L'histoire du XXe siècle nous montre que le chef devient incontestable dans des régimes toujours en mouvement, dans une fuite en avant. Ce fut la collectivisation pour tuer la propriété privée en URSS, la conquête d'espaces vitaux pour l'Allemagne nazie. Trump, avec le Groenland, le canal du Panama, l'annexion du Canada, offre à ses électeurs cette fuite en avant. La vérité n'est donc plus un besoin dans le discours politique. Elle est remplacée par un récit. Le récit de celui qui paraît le plus simple à comprendre. Le mensonge est un récit tout simple.
On la malaxe ou on la broie, on la manie, on la surcharge, on l'interprète, on la décharge. On l'a vécu, on l'a connu. On a la sienne, on a la nôtre. Ils ont la leur, mais elle est fausse. Elle est toute faite, tout fabriquée. Elle est divine, mystifiée. Elle sort du puits ou du trottoir. Elle est unique, elle est à voir. Elle se déforme, elle s'imprime. Elle prend des coups ou bien des primes. Elle était là, elle est ailleurs. Elle était noire, elle devient blanche. C'était en 1940. Après, je ne me souviens plus.
La vérité est dans la rue, au parti ou dans les églises. Les épiciers vont dans le buffet et les filous dans leur miroir.
Cette chronique et quelques-unes supplémentaires seront éditées dans un livre prévu en 2025. Vous pouvez aussi les retrouver sur ma chaîne YouTube intitulée Chroniques par Mont et par Vaux. Et un premier recueil, édité en 2023 aux éditions BOD, est toujours disponible sur toutes les plateformes et les bonnes librairies. Mais en attendant, n'oubliez pas que si RPH peut accueillir ses chroniques, c'est parce que c'est une radio associative non commerciale qui vit notamment grâce à des subventions publiques et aux nombreux bénévoles. La menace de voir diminuer ses subventions à l'expression radiophonique peut revenir à tout moment en cette époque de restrictions budgétaires. Je remercie RPH Sud et Radio Pays d'Hérault pour rendre possible ces petits moments de philosophie et plus particulièrement Solène pour la prise de son et l'aide au montage. Et je laisse le dernier mot à Jacques Higelin.
surtout ne te reprends.